Bonjour, bienvenue à La Voix de la librairie, émission qui sera consacrée aujourd'hui à l'art. Émission animée par Catherine Doré et mise en musique par L'Homme qui a vu l'Homme. L'art fait partie de ces concepts si difficiles à définir que lorsqu'on essaie d'en discuter souvent, ça finit par des obstinations et des incompréhensions réciproques. Alors, on va prendre le risque ce soir de discuter d'art en essayant de ne pas s'obstiner. Et pour se donner une chance, on va se limiter avec mes invités à la peinture ou plutôt à l'art pictural. Xavier va nous parler de l'académisme, Dominique du modernisme et Oscar terminera avec le postmodernisme. Et pour débuter notre réflexion sur l'art, j'ai trouvé dans la revue Philosophie Magazine la définition suivante. L'art désigne un ensemble de procédés visant un résultat pratique. Cette notion doit être distinguée de son acception technique au profit de son sens esthétique. L'art de l'ingénieur n'est pas celui de l'artiste. L'artiste, lui, s'adonne aux beaux-arts, et ce sont des arts désintéressés qui visent la beauté. On distingue au sein des beaux-arts les arts plastiques, c'est-à-dire l'architecture, la sculpture et la peinture, et les arts rythmiques, la musique, la danse et la poésie. La modernité y ajoute un septième art, le cinéma. Le philosophe, lui, interroge, entre autres, la création. Il se demande, l'art dépend-il de règles ou d'un génie créateur? Le philosophe s'interroge aussi sur la réception de l'art. Y a-t-il une norme du goût? L'œuvre d'art peut-elle élever l'âme? La réflexion contemporaine bouscule cette approche. La laideur et le banal se donnent comme des catégories esthétiques. Et la question « qu'est-ce que l'art ?» cède souvent la place à « quand y a-t-il art ?» Et avant de plonger dans le vif du sujet, comme on le fait depuis quelques mois, on va débuter l'émission tout en douceur avec Renaud Pilote et une renauderie sur un objet qui envahit votre quotidien, le banc de neige. Et pour présenter la renauderie de ce mois-ci, L'Homme qui a vu l'Homme a choisi une pièce musicale appropriée.
Ben, en fait, c'est la balle de neige, Snowball. C'est une pièce qui date des années 1980. Alors, c'est un groupe de New Wave, Devo. Alors, c'est entièrement des synthétiseurs. Alors, on démarre ça.
Merci.
Thank you. Alors, aujourd'hui, lundi 2 février 2015, c'est l'occasion de traiter du banc de neige, je crois. Hein? On est au cœur de l'hiver. Mais au-delà du banc de neige, il y en a un que j'aimerais vous présenter, que j'ai eu la chance de connaître, un banc de neige en particulier. Okay? Blanc, il est blanc en hiver, brun en été. Ce banc de neige est depuis longtemps le compagnon de nos jours, nous, citadins de la ville de Québec. Pépère, renfrogné, intraitable, il aura bien fallu apprendre à vivre avec. C'est un banc de neige spécial, somme toute un super banc de neige. Les pluies de l'automne n'ont jamais été en mesure de l'achever tout à fait. Si bien qu'au jour de l'an, on le retrouve, année après année, revigoré et saupoudré d'une blancheur nouvelle. En effet, pour Noël, il a reçu tout plein de cadeaux. Des milliers de camions sont venus lui porter leurs offrandes, repus, dégoulinant de calcium et de gadou. Ce gargantua du Nord gît dans son lit de gravelle, telle une poutine dans son gravy. En moins appétissant, cela va de soi, mais néanmoins, notre banc de neige éternel est content. Ses congénères congères n'ont pas sa chance. Ces pauvres mal-aimés fondent au gré des redoux et accueillent chaque bordée comme une bénédiction. Luttant pour leur survie dès le mois de mars, l'été est pour eux un mythe, une histoire de grand-mère, un concept qui dépasse l'entendement. Lorsqu'une gratte daigne les compacter lors d'une opération déneigement, un terme clinique sans cœur selon eux, c'est pour mieux s'enfuir l'instant d'après, les laissant dans leur sibérienne solitude, au fond d'un stationnement vide. Ils ne se doutent pas que là-bas, effoiré quelque part entre deux bretelles d'autoroute de la couronne nord, le super banc de neige se la coule douce à l'année. Sera-t-on étonné d'apprendre qu'il est un climato-sceptique endurci? Il ne conçoit pas le jour où une canicule prolongée mettra un terme à son emprise sur la ville, tirant sa fierté du fait qu'il permet aux citoyens de vivre l'hiver en voiture et qu'il fait ainsi rouler l'économie. Il possède la confiance nécessaire pour ordonner au col bleu de ne rien laisser à l'abandon, de déblayer jusqu'au fin fond des cul-de-sac. Il se sent éternel et son égo démesuré n'a d'égal que son indifférence face à sa propre laideur. S'il le pouvait, il irait dans le sud pendant l'hiver. Question d'entretenir sa couleur brune toute l'année. Ça, je tire ma source de cette information d'Éco-Vedette février 2011.
Oh,
Mais il est fait de neige et ne peut se sauver de sa condition hivernale sous peine de non-existence. Voilà le drame de cet être paradoxal. Toi, le banc de neige qui fuirait volontiers l'hiver, tu serais pas un peu con? Vous lui posâtes... Malheureusement, le banc de neige n'a pas écouté cette question à brûle-pourpoint que vous lui posâtes, car il pensait à autre chose. En secret, il pense sans cesse au retour des Nordiques. Sa passion, sa seule raison de vivre, tel qu'il le disait à l'émission « On prend toujours un train » en septembre 2012. Il avait d'ailleurs failli s'écrouler de douleur lors de leur départ en 1996, mais s'était retenu par peur de trop ressembler à une avalanche du Colorado. Bon. Aujourd'hui, la toiture blanche du nouvel amphithéâtre lui donne l'impression d'avoir trouvé un frère, une âme sœur. La ressemblance est sidérante. 400 millions de flocons d'un côté, 400 millions de dollars de l'autre. 400, c'est 400, s'esclavent-ils souvent ensemble d'un air complice. J'ai rendu visite à l'empereur l'autre jour pour un autographe. Il m'a tourné le dos, le salaud. J'ai donné un bon coup de pied au cul, mais mal m'en pris, car tout de suite après, j'ai reçu une canette de Coors Light sur la tête. C'est alors que j'ai entendu une grosse voix me dire « En veux-tu une froide, le gros? »
Mais, alors, voilà, merci beaucoup, Renaud.
Sur cet individu.
Décrit de cette manière, ce banc de neige à l'insondable laideur pourrait presque être beau.
Presque.
Décrit de cette manière-là.
Attachant, quand même attachant.
Ça pourrait peut-être même se faire passer pour une œuvre d'art.
Oui.
Sait-on jamais. Ouais. Alors, merci beaucoup, Renaud. Renaud, on trouve tes textes dans le journal du quartier.
Oui, le journal du centre-ville communautaire, Droit de parole.
Droit de parole, dans Droit de parole.
Depuis. Les chroniques sont là depuis peut-être 7-8 ans.
Quand même.
Le journal existe depuis 40 ans.
Bien. Et pour les amateurs de Renaud Dry, on peut trouver ça aussi dans des recueils?
Oui, j'ai fait un premier tome d'une trentaine de ces textes-là en 2012. C'est difficile à trouver, il faudrait que j'en ramène à la librairie.
Mais on attend impatiemment le deuxième tome.
Oui. 2015 est mon objectif.
2015, oui. C'est bien. Ben merci beaucoup, Renaud. On va se dire au mois prochain.
Sans faute. Merci.
Merci. Alors, on va maintenant passer à notre thème principal qui est l'art. Et pendant que mon invité prend place, on va écouter une première pièce musicale en lien avec notre sujet du jour. Dans quelques minutes, Xavier va nous parler du mouvement des académies en peinture, un mouvement qui a été qualifié d'art pompier par les impressionnistes. Alors, pour célébrer l'art pompier, on va écouter une pièce de circonstance, L'homme qui a vu l'homme.
Et oui, c'est la pièce « Art of War ». C'est de la violoniste chinoise Vanessa Mei.
Alors, on écoute ça. Art of War. Alors, on va commencer notre réflexion sur l'art avec David, notre libraire, qui a trouvé une citation appropriée. On t'écoute, David.
Mais oui, qui précède de quelques siècles, Vanessa May, l'art de la guerre est de détruire les hommes, comme la politique est l'art de tromper. C'est tiré d'Alembert, l'encyclopédiste. Voilà.
Merci, David. Alors, on accueille maintenant Xavier Bélanger-Dorval. Xavier pratique lui-même le dessin depuis quelques années. Et il s'est tout de suite intéressé à ce qu'on appelle le dessin d'observation. Et c'est comme ça, en pratiquant le dessin d'observation, qu'il s'est intéressé graduellement au mouvement de l'académisme. Bonjour, Xavier.
Allô, Catherine.
On commence cette présentation par une citation, toi aussi?
Oui, une citation de Jean-Auguste Dominique Ingres, qui définit aussi bien l'académisme que la citation de David définit la politique.
La politique, oui. Ouais.
Donc, la voici. Il n'y a pas deux arts, il n'y en a qu'un. C'est celui qui a pour fondement le beau éternel et naturel. Ceux qui cherchent ailleurs se trompent, et de la manière la plus fatale. Qu'est-ce que veulent dire ces prétendus artistes qui prêchent la découverte du nouveau? Y a-t-il rien de nouveau? Tout est fait, tout est trouvé. Notre tâche n'est pas d'inventer, mais de continuer. Nous avons assez à faire en nous servant, à l'exemple des maîtres, de ces innombrables types que la nature nous offre constamment, en les interprétant dans toute la sincérité de notre cœur, en les ennoblissant par ce style pur et ferme sans lequel nulle œuvre n'a de beauté. Quelle absurdité que de croire que les dispositions et les facultés naturelles peuvent être compromises par l'étude, par l'imitation des œuvres classiques. Le type original, l'homme, reste toujours là. Nous n'avons qu'à le consulter pour savoir si les classiques ont eu tort ou raison, et si, en employant les mêmes moyens qu'eux, nous mentons ou nous disons vrai. Donc,
cette citation de M. Ingres visait exactement qui à ce moment-là?
En fait, visait les romantiques, en fait.
OK.
Puis définit assez bien les forces et les faiblesses et les prétentions aussi de l'art académique. Je dis art académique, c'est-à-dire ce dont on parle, donc l'art pompier, a été un peu le dernier souffle de cette tradition, pas dire philosophique, mais idéologique, mettons.
On se demandait, avant que tu viennes t'installer, qu'est-ce qu'on appelle l'art pompier? Est-ce que tu peux nous donner une idée?
Oui, en fait, une brève présentation, puisque l'art pompier est un terme moqueur pour envelopper, comme je disais tantôt, un peu le dernier souffle des artistes qui ont été formés par les académies.
Oui.
Donc, c'est un mouvement artistique au milieu du 19e siècle qui avait des influences néoclassiques ou de l'alexandrinisme qu'on appelle, donc des sujets helléniques, en fait, hellénistiques, puis d'orientalisme. Donc, il y avait des peintres comme William Bouguereau, Cabanel, Meissonnier, des sculpteurs comme Houdon, par exemple, qui étaient dans ce dernier souffle qui était confronté à l'impressionnisme à l'époque, puis qui a été heureusement dépassé, ou plutôt confronté justement à l'impressionnisme, puis petit à petit dépassé par ce mouvement-là.
Et donc, on appelait ça l'art pompier par opposition à l'impressionnisme, si je comprends bien.
C'était pas par opposition, c'est juste que, étant donné que ce mouvement-là était vraiment sur son dernier souffle, donc qui avait épuisé complètement toutes ses ressources, on trouvait que c'était un art un peu pompeux, justement, aussi, qui avait des idéologies qui étaient fatiguées au moment où c'est arrivé, qui était en train vraiment de s'épuiser avec toute la confrontation à l'époque, donc toute la dégradation des valeurs, toutes ces choses-là. Donc les gens se plaisaient à appeler ça hors-pompier, en fait, tout simplement. Donc voilà.
OK. Et c'était porté par quel peintre, ça?
Ben en fait, c'est ça, comme je disais, Bouguereau, Cabanel, Meissonnier, tous les derniers peintres de cette grande tradition que l'Académie royale, en fait, a formé. Donc, l'Académie royale qui était l'autorité, en fait, de l'art français.
Et malheureusement, moi, je connais pas Bouguereau. Ça ressemblait à quoi?
En fait, c'est ça. Voilà. Donc, les peintures, en fait, moi, ce que je vous propose, c'est de faire un petit portrait, en fait, de ce que l'Académie royale proposait, puisque c'est cette académie-là qui a régi pendant très longtemps, en fait, les règles de l'art français, en fait, puis qui s'imposait même, qui a imposé des règles, même, je pense que c'est le terme. Donc, c'est une académie qui a été fondée en 1648 par Anne d'Autriche, puis qui a été ensuite réorganisée par Louis XIV en 1665. Donc, cette académie-là, qui, aussi sévère soit-elle, n'était pas pour autant elle discriminait pas tous les peintres, donc elle avait ses exigences, puis pour y entrer, on devait faire ce dont elle... Pour y entrer, on devait faire ce dont elle avait besoin, en fait, donc... C'était des... par exemple, Charles Lebrun, qui était le premier directeur de cette académie-là, a, avec certains collègues, imposé le travail d'atelier, par exemple. Donc, okay. Les peintres de l'art pompier, qui, eux, ont continué cette tradition-là, avaient, en fait, comme figure, souvent, c'était des... c'était très hiérarchique, en fait, comme... Mm-hmm. Sujet. Donc, le premier sujet, donc le sujet qui était le plus... Le privilégié dans les salons, c'était les peintures historiques, mythologiques ou d'histoire sainte, en fait. Pour la simple et bonne raison que ça véhiculait une idéologie, en fait, des valeurs qui étaient respectées à l'époque par le régime en place. Mm-hmm. Puis aussi, ça démontrait que le peintre avait une certaine culture générale, en fait, puis avait fait une certaine recherche.
Connaissait l'histoire,
tout à fait. Puis même lui accordait une certaine importance. Ensuite, c'était le portrait. Le portrait qui était très, très, très privilégié aussi, qui a été popularisé, je vous dirais, par Ingres beaucoup. En fait, en France, Ingres, ça a été un portraitiste très, très, très important. Puis les gens ont beaucoup gardé l'esthétique de Ingres pour faire les portraits. Donc ça, c'était le deuxième sujet qui était, somme toute, important. Troisième, qui était beaucoup moins important que les deux premiers, c'était la scène de la vie quotidienne, sauf à la fin. Il y a eu des gens qui se sont intéressés beaucoup plus, si on pense à Courbet, qui s'y intéressait pas nécessairement en peinture, mais beaucoup véhiculait beaucoup un peu son espèce de protection par rapport aux pauvres, ou toutes ces choses-là. Donc il y a un réalisme qui était teinté un peu du quotidien à quelque part.
Oui, c'était des peintures réalistes, il faut le dire. Ouais, il faut être le plus près possible de la réalité.
Tout à fait, ça c'était clairement dans le cadre. Ensuite, il y avait les paysages, les natures mortes, puis les animaux, peintres animaliers, c'était pas très... Les peintres équestres un peu plus, mais quand même, n'empêche, c'était pas les sujets les plus privilégiés.
Mais j'imagine qu'on croyait qu'on couvrir tous les thèmes possibles avec ça. Là. On peut pas s'imaginer qu'on pouvait peindre autre chose que...
Non, c'était pas impossible, puisqu'il y a des gens qui ont été des dissidents, on pense aux impressionnistes, puis même...
Oui, mais pas. On parle au moment où ça a été formé, les académies, et que tout ça a été construit comme institution. J'imagine qu'à part ces catégories-là, on croyait couvrir tous les sujets possibles.
C'était tous les sujets qui étaient. Oui, exactement, en fait, carrément. Puis, ces sujets-là, en fait, comment on arrivait à faire des peintures qui étaient, disons-le, la force de l'académisme? C'est la qualité, premièrement, du dessin, qui prime sur. Tout ce qui englobe, en fait, la conception d'une œuvre artistique, c'est la qualité du dessin. Ensuite, il y avait le corps, la figure humaine, en fait, qui était omniprésente, pratiquement, dans les peintures académiques aussi. Puis tout ça, en fait, toutes ces règles-là étaient... Bref, ils étaient respectés parce que tous les peintres étaient formés, en fait, dans une académie et suivaient un cursus identique. En fait, tout le monde passait par là. Puis la façon dont ils apprenaient, en fait, c'était dans les ateliers. Donc, ils avaient une conception très, très classique de l'art. Donc, des règles excessivement rationnelles qui pouvaient être apprises par l'étude. Donc, tout le monde pouvait apprendre ce qu'il faisait. C'était pas du génie, c'était de l'apprentissage, du métier. C'est une approche très méthodique de l'art, en fait.
Et est-ce qu'il y avait des maîtres à imiter?
Tout à fait. En fait, la création de l'académie a été faite pour justement détacher un peu les élèves des maîtres. Parce qu'avant, c'était un élève allait chez le maître, puis le maître était un peu un businessman, dans le sens où il y avait certains contrats, il y avait ses élèves, puis il faisait. Une fresque, par exemple, avec ses élèves, etc. Puis l'élève avait pas un mot à dire, mais c'est pas parce que l'académie a été créée puis a formé des peintres que nécessairement ces peintres-là allaient pas chez des maîtres. Après, souvent, ils faisaient un apprentissage aussi chez des maîtres encore, ils poursuivaient toujours leur apprentissage. Puis justement, ces maîtres-là leur apprenaient aussi l'importance de la figuration, du réalisme, etc.
Et qu'est-ce qui fait que cette tradition-là de l'académisme est disparue? Parce qu'on comprend qu'il y a d'autres formes d'art qui sont apparues, comme l'impressionnisme, l'expressionnisme, mais pourquoi c'est pas demeuré, finalement, l'académisme?
C'est que, justement, ils avaient épuisé tous les sujets. C'était pas un art de, comme je disais, un art de génie. C'était un art très méthodique, très rationnel. Ils n'avaient pas des ambitions créatrices, ils avaient des ambitions d'observateurs, ils avaient des ambitions politiques, certainement, philosophiques aussi un peu, mais c'était pas un art qui cherchait à aller plus loin, comme la citation le disait si bien. C'était un art qui se voulait conservatrice.
Oui.
Ils ne voulaient pas aller chercher ailleurs, ils n'en avaient rien à faire, alors que les impressionnistes se sont imposés, avec brio d'ailleurs. Ils sont allés chercher une technique beaucoup plus plastique. Ils sont allés chercher des sujets beaucoup plus simples. Ils se sont détachés encore plus de toute cette politique qui s'essoufflait un peu. Puis ils sont allés chercher justement, ils ont mis en valeur les scènes de la vie quotidienne, oui, par exemple. Puis le trait, chose que l'art réaliste a pas su premièrement accepté, donc de par son hermétisme, l'art académique a coulé de lui-même. Donc,
il nous reste à peu près une minute pour conclure. On a décidé de faire ce sujet-là ce soir parce que tu m'as dit qu'on assistait à un retour de l'académisme.
Bien, un retour, en fait, il y a beaucoup d'académies qui se créent présentement aux États-Unis. Il y a l'Académie Grand Central Academy présentement, qui est une académie très, très, très populaire, qui forme des peintres. Je pense à Travis Schlatt, par exemple, ou à Jordan Sokol, Michael Grimaldi, qui sont des peintres qui font figure aussi d'autorité. Cependant, cette académie-là n'a peut-être pas la prétention artistique. Elle est beaucoup plus axée, justement, sur le métier. Elle ne veut pas s'imposer. Elle est très ouverte aux autres styles, etc. Il y a aussi, d'ailleurs, une académie à Québec. Puis, c'est l'académie de M. Denis Jacques. Puis cette académie-là fait des modèles de nu. Donc, si vous voulez faire du nu, je vous invite à aller le 9 février, lundi soir, pour faire du nu. Puis sinon, à la fabrique, le mardi soir à 19h et le samedi matin à 9h, il y a aussi des ateliers de nu.
Merci beaucoup, Xavier. Il va falloir s'arrêter là. L'invitation est lancée aux gens qui peuvent s'intéresser donc au dessin, à la précision du dessin. Et peut-être qu'on y reviendra tout à l'heure avec un autre invité à savoir si c'est de l'art ou pas.
Oui, tout à fait. Ça va être fort intéressant. Merci, Catherine.
Merci, Xavier. On va faire une pause pour les commandites de Sequoia et on vous revient.
Bien, pour les commandites de Sequoia, on va nous s'amuser un petit peu, puis écouter le sympathique Bobby Lapointe qui nous offre son interprétation de la chanson que tout le monde connaît bien, La peinture à l'huile.
La peinture à l'huile, c'est bien difficile à l'huile. Mais c'est bien plus beau, dali, daladi, adadi, que la peinture à l'eau. Ah, à l'eau, ah, rapetit, péta, petit péto, rapetit, péta, petit péto, carabine de carabo, rien n'est plus beau que la retraite au flambeau. Sauf peut-être ma cousine Berthe qui s'est fait faire une défrisable, elle est admirable, on en mangerait un tout petit peu, tout petit peu, tout petit peu. C'est un jeu face à Waïle, on dit de verre en Waïle. Et puis on termine, dali, daladi, adadi, par plaisanterie fine. À l'eau de Seltz, rapetit, péta, petit péto, rapetit, péta, petit péto, carabide, carabo, rien n'est plus beau que la retraite au flambeau. Sauf peut-être ma cousine Berthe qui s'est fait faire une défrisable, elle est admirable, on en mangerait un tout petit peu, tout petit peu, tout petit peu. Les automobiles dans les rues des Fawaïles, c'est moins rigolo, dali, daladi, adadi, les pédalos à l'eau. Ah, à l'eau, ah, rapetit, péta, petit péto, rapetit, péta, petit péto, carabide, carabo, rien n'est plus beau que la retraite au flambeau. Sauf peut-être ma cousine Berthe qui s'est fait faire une défrisable et est admirable. On en mangerait un tout petit peu, tout petit peu, tout petit peu. Faut pas se faire de bawaïle, c'est bien inutile. amoureuse. Dali, dala, di, adadi, vaut mieux se faire autre chose. Aloha, rapidi, péta, petit péto, rapidi, péta, petit péto, carabide, carabo, rien n'est plus beau que la retraite au flambeau. Sauf peut-être. De la musique avant toute chose, et pour cela, préfère l'impair, plus vague, plus soluble dans l'air, sans rien en lui qui pèse ou qui pose. Il faut aussi que tu n'ailles point choisir tes mots sans quelque méprise, rien de plus cher que la chanson grise où l'indécis au précis se joint. C'est des beaux yeux derrière des voiles, c'est le grand jour tremblant du midi, c'est par un ciel d'automne attiédi, le bleu fouillis des claires étoiles, car nous voulons la nuance encore, pas la couleur, rien que la nuance. Oh, la nuance, seule fiance, le rêve au rêve et la flûte au corps. Fuis du plus loin la pointe assassine, l'esprit cruel et le rire impur qui font pleurer les yeux de l'azur et tout cet ail de basse cuisine. Prends l'éloquence et tords-lui son cou, et tu feras bien en train d'énergie de rendre un peu la rime assagie. Si l'on y veille, elle ira jusqu'où? Oh, qui dira les torts de la rime? Quel enfant sourd ou quel nègre fou nous a forgé ce bijou d'un sou qui sonne creux et faux sous la lime? De la musique encore et toujours, que ton verre soit la chose envoilée, qu'on sent qui fuit d'une âme en allée vers d'autres cieux, à d'autres amours. Ton verre soit la bonne aventure éparse au vent crispé du matin qui va fleurant la menthe et le thym et tout le reste est littérature et tout le reste est littérature.
Merci, L'homme qui a vu l'homme. On vient d'entendre une pièce de Léo Ferré.
Tout à fait, oui, une pièce de Léo Ferré sur son album qu'il a consacré à la poésie de Rimbaud et Verlaine.
Et c'était un texte d'eux à ce moment-là?
Un des deux.
Ah, on ne le sait pas. Alors, les spécialistes le sauront.
Certainement.
Avant de passer au modernisme avec Dominique, j'aimerais vous lire un texte de Nicolas Tonaillon que j'ai pris dans Philosophie Magazine. Il s'est posé la question suivante: l'art peut-il se passer de règles? Alors, se demander si l'art peut se passer de règles revient à s'interroger sur l'opportunité des contraintes formelles en esthétique. Si, pour exprimer son talent, l'artiste doit accepter et intégrer un certain nombre de règles, comment l'œuvre produite pourra-t-elle échapper à l'académisme? Si, au contraire, on estime que la création artistique doit échapper à toute contrainte conventionnelle, comment le public pourra-t-il percevoir dans l'œuvre exposée autre chose qu'un délire subjectif? On le voit, tout le problème consiste à comprendre comment se communique une création. Produite sans règles, L'œuvre semble impossible à réceptionner. Trop soucieuse des règles, elle n'est plus création. Alors parlons d'abord de la nécessité des règles. L'art suppose une maîtrise technique qui s'apprend dans les écoles. Les règles qui gouvernent l'art sont donc en premier lieu celles de son apprentissage qui est toujours ou presque toujours mimétique. Ainsi, une statue de Polyclète fut nommée « la règle » parce que, par sa perfection, elle pouvait servir de guide à tout sculpteur. L'essence même de la beauté obéit à des règles. L'idée que ce que vise l'artiste est en lui-même ordonné devient une conviction au XVIIe siècle. De même que Descartes pose les règles de sa méthode pour atteindre la vérité, de même, Boileau, dans son art poétique, fait dépendre l'expression de la beauté de règles strictes, comme au théâtre, celle des trois unités. À défaut de pouvoir saisir par lui-même ce qui fait la beauté d'une œuvre, le public, quant à lui, pourra être guidé par ce que Hume appelle des hommes de goût, dont le jugement, parce qu'il associe la délicatesse de sentiment à un jugement clair, permet de révéler les règles qui prévalent en art. Évidemment, il y a un danger dans les règles. L'académisme, c'est-à-dire le respect strict des règles, finit par nuire à la créativité. Diderot, l'un des premiers critiques d'art, disait que « les règles ont fait de l'art une routine. Elles ont servi l'homme ordinaire, elles ont nui à l'homme de génie. » On évaluera donc la beauté d'une œuvre par un je ne sais quoi qui, justement, n'obéit à aucune règle. La création passe donc par le rejet des règles parce qu'elles finissent par être jugées trop contraignantes. D'une manière générale, le public, peut-être parce qu'il est mal à l'aise avec la nouveauté, aime à situer les œuvres dans des courants artistiques et à figer l'innovation en cherchant des règles à l'œuvre dans toute production artistique. Picasso, épousant volontiers les différents styles du début du XXe siècle, manifeste par son art que ce désir du public ne doit pas guider le génie artistique. La dialectique nécessaire de la règle et de la transgression. Le rejet de toute règle finit par nuire à l'art. Dans le chef-d'œuvre inconnu, Balzac montre comment un génie de la peinture, dans sa quête solitaire de la perfection, produit une œuvre absurde dès lors qu'il s'affranchit exagérément des règles communes de la réception d'une œuvre. Il y a donc bien des règles en art. Mais, comme le voit Kant dans la critique de la faculté de juger, on ne peut les prescrire, car la beauté obéit à une légalité sans loi. Si les goûts s'accordent, c'est par un libre jeu qui fait que l'imagination et l'entendement s'harmonisent. Quant au génie créateur, il est ce par quoi la nature prescrit ses règles à l'art. L'art contemporain, en bousculant toutes les règles, est tombé dans ce que Luc Ferry appelle la logique des avant-gardes, où la seule règle consiste à faire ce qu'on n'a pas encore osé faire. On peut voir là un appauvrissement de l'art et la réalisation de ce qu'annonçait Hegel comme la mort de l'art. Dès lors qu'il se parodie lui-même et oublie sa mission sacrée. Exiger des règles, n'est-ce pas rappeler qu'il y a, comme le théorisait Kandinsky, du spirituel dans l'art? Alors, c'est une réflexion de Nicolas Tenaillon que j'ai pris dans Philosophie Magazine. On va faire une nouvelle pause musicale avant de passer à notre prochaine invitée, Dominique. Dominique va nous donner un bref aperçu de vie et mort du modernisme en art. Et l'homme qui a vu l'homme nous a choisi une pièce très moderne.
Oui, de l'Art Ensemble of Chicago, et ça s'appelle le thème de Céline. Thank you.
Alors, on serait prêt à aborder la période moderniste en art, mais avant, David est de retour pour une autre citation. On t'écoute, David.
Et oui, alors, c'est une citation de Oscar Wilde, un des auteurs fétiches de Dominique. « La vie imite l'art bien plus que l'art n'imite la vie. »
La vie imite l'art, comme c'est bien. Ah oui, c'est beau. Voilà. Alors, on accueille maintenant Dominique. Dominique Morin est étudiant en philosophie à l'Université Laval. Il s'intéresse particulièrement à la phénoménologie. Il a gentiment accepté ce soir de venir donc nous parler du modernisme en art et de la manière dont le modernisme s'est fait discréditer à son tour après avoir balayé donc l'académisme. Bonjour Dominique.
Bonjour Catherine.
Alors, on va commencer par parler d'un théoricien de l'art qui a été très important dans le mouvement moderniste. Il s'agit de Clément Greenberg.
C'est pas juste un théoricien de l'art, surtout un critique d'art. Mais il faut dire que Clément Greenberg aurait fait un peu le mouvement moderne par lui-même. Déjà vers les années 40-50, il va publier des essais qui vont devenir extrêmement célèbres. Mais il va pas juste faire des publications sur la théorie de l'art, il va aussi financer des expositions. Il va financer des artistes, il va rendre des artistes célèbres. Ce qui va faire que, de son époque même, il va être extrêmement connu. Puis les étudiants en art vont même se conformer à ses idées afin de pouvoir participer de sa célébrité puis pouvoir rentrer dans le carcan de ses théories. Ce qui veut dire que ces théories ne vont pas uniquement observer ce qu'est l'art moderne, ils vont aussi forger un art moderne par la prestance de ce personnage. Donc c'est impossible de parler d'art moderne sans parler de Clément Greenberg. D'ailleurs, on le surnommait le tsar de l'art, tellement que son influence...
On est dans les quelles années à ce moment-là?
Je pourrais pas dire. Mais
est-ce que quelqu'un du 20e siècle?
Oui, lui, il a commencé ses premiers écrits vers 40-50, les années 40-50.
Ça donne une idée.
Jusqu'à l'avènement du post-minimalisme, peut-être. Donc, l'avènement du post-modernisme dans la fin des années 60.
D'accord.
Le milieu des années 60.
Et quand on parle de modernisme, on parle de quoi exactement? On parle de l'impressionnisme, de l'expressionnisme?
Le modernisme en art...
Quand commence-t-on, oui, à parler de modernisme?
Le modernisme en art inclut plusieurs courants. C'est certain qu'on parle surtout du formalisme, donc de l'art abstrait en grande majorité lorsqu'on parle de la peinture, mais lorsqu'on parle de la sculpture, ça va être le minimalisme. Ça va se représenter, ça, le minimalisme, souvent par de grandes sculptures massives, des formes géométriques immenses, très massives, mais loin d'être la sculpture de la Renaissance, là, où on avait des formes décernables. Ça va être vraiment dans la forme, plus que dans le contenu, qu'on va déceler l'art moderne. D'ailleurs, Clément Greenberg disait, en s'inspirant de Kant, que le propre, il s'inspirait de Kant un peu à sa manière, mais le propre de l'art était de se critiquer lui-même, de revenir sur soi afin de pouvoir délimiter les champs d'action de ses médiums. C'est-à-dire que les médiums spécifiques, la peinture, la sculpture, etc., devaient se replier sur leurs caractéristiques spécifiques. L'essence du modernisme, c'est donc une méthode qui vise à ce que la discipline se critique elle-même, que chaque médium se questionne sur ce qui lui est spécifique.
D'accord.
Donc l'art, la bidimensionnalité, la sculpture, la tridimensionnalité, puis qu'en ce sens, l'art se concentre uniquement là-dessus. Donc la peinture va devenir très formelle, de longues bandes blanches et bleues. C'est d'ailleurs lui qui, avant ce formalisme-là très abstrait, va beaucoup financer Pollock, va faire la célébrité de Pollock.
Oui, d'accord.
Donc là, on met l'accent sur la bidimensionnalité du tableau. On ne cherche plus à faire un espace de profondeur ou de la perspective, comme c'était la recherche à la Renaissance. On ne cherche plus à aller chercher la lumière, comme c'était le cas l'impressionnisme. Ce qu'on cherche réellement, c'est la bidimensionnalité. C'est ce qui serait le propre de la peinture.
D'accord.
En sculpture, la tridimensionnalité, on va venir chercher justement de grandes formes qui viennent occuper l'espace, qui viennent montrer c'est quoi le justement.
Donc, c'était vraiment une recherche formelle, c'est d'essayer de trouver l'essence même de chaque forme d'art, si je comprends bien.
Exactement.
Et comment on en est venu là? Comment on en est venu? Bon, on parlait de l'académisme tout à l'heure avec Xavier, on a vu l'impressionnisme arriver. Quand on parle du modernisme, c'est autre chose, là. C'est autre chose que l'impressionnisme ou l'expressionnisme. Comment c'est apparu? C'est quoi les idées, dans le fond, qui sous-tendaient cette...
C'est que, contrairement à l'impressionnisme, le modernisme postmodernisme n'est pas un mouvement particulier, c'est un groupe de mouvements, c'est comme une période historique. Donc, il y a plusieurs mouvements qui font partie du modernisme. On a le suprématisme avec, mettons, Malevitch, on a l'art abstrait, les grands artistes abstraits, on a le formalisme, on a le minimalisme, donc différentes formes artistiques, mais ce qu'ils ont en propre, c'est réellement cette idée-là, c'est de se replier sur ce qui est spécifique au médium, à la peinture, etc. D'ailleurs, Greenberg disait qu'il y avait une évolution ou un progrès en art. Puis il disait justement que le modernisme était l'apogée de ce mouvement-là, puis que l'art menait à une forme de plus en plus épurée. Un processus en marche qui menait à des formes de plus en plus limitées, de plus en plus claires, épurées, etc. Puis qui mènera au formalisme comme apogée de cette tendance. D'ailleurs, il disait que l'esthétique était un univers autonome qui n'impliquait ni le politique ni le social, une forme épurée qui se limite à la forme, puis qui devait être exempt de tout contenu là, à message, comme on pourrait voir dans l'art un peu plus contemporain, où là, réellement, l'art veut promouvoir un message, veut promouvoir une critique sociale, etc. Ça va être des choses qu'on va plus attribuer au postmodernisme. D'accord. Mais ce qui a trait au modernisme, ça voulait vraiment être épuré de tout sens.
Si je comprends bien, ça s'inscrit dans une conception évolutionniste de l'art. C'est que l'art est bien, un peu comme l'humanisme, un peu comme la vision de l'histoire aussi à cette époque-là. On allait vers quelque chose.
Il y a réellement une notion de progrès, effectivement. Puis les gens qui participaient au projet de Greenberg pensaient réellement, puis on le voit, si on pense des années 40 ou 50, on pense à Pollock, puis à la peinture... C'est très abstrait, mais c'est rien comparativement à la peinture des années 60, où là, Greenberg va faire une exposition en 65, je crois. J'ai plus la date, mais où finalement, ça va être de longues bandes de couleurs, des carrés de couleurs sur les murs, etc. Puis, on peut même se questionner à savoir, est-ce que c'est rendu simplement de la décoration? Oui. Est-ce que si je fais mon salon, puis je fais de longues bandes de couleurs, oui, est-ce que je fais de l'art?
Ça ressemble à de la tapisserie, à
donc,
un moment donné.
Donc, ça va finir éventuellement par choquer, pas par choquer, mais par tanner certains artistes qui vont vouloir un peu se détacher du carcan. Parce que c'était réellement une influence tellement formidable que ça pouvait s'approcher un carcan. Ce que Greenberg
redevenir
imposait.
Un académisme?
Peut-être plus ou moins.
Des règles?
Mais oui, c'était pas des règles, mais c'était une idée. Puis c'était un projet. Puis les artistes, Greenberg avait une telle influence que les artistes avaient la volonté de se conformer à ce projet-là, plus ou moins. C'est réellement... C'est montrer comment, finalement, c'est pas uniquement un théoricien, mais c'est aussi, justement, un critique, puis un grand mécène des arts qui va influencer tout le 20e siècle. C'est pour ça qu'on peut pas réellement parler de l'art moderne sans parler de Clément Greenberg.
Est-ce que dans la démarche de Greenberg, dans l'art moderne, il y a... c'est quoi le rapport avec la raison? Parce que quand on parle du modernisme, c'est toujours la raison qui est à la base.
Ben, c'est certain.
Je pense au marxisme, entre autres. Je pense à l'art réaliste de Marx.
L'idée de la raison, c'est toujours... ça s'approche plus du domaine des idées, c'est certain. En art, on est plus dans le domaine de l'esthétique habituellement. L'idée de la raison s'applique un peu moins. Mais c'est certain que dans l'idée d'une forme de plus en plus épurée, finalement, on en vient à un art tellement...
Très intellectuel, en tout cas. C'est très cérébral.
Pratiquement intellectuel, mais en même temps presque décoratif. Oui. Tellement dénué de contenu... pratiquement oui. Plus d'interprétation à y avoir.
Oui.
Si on pense au suprématisme de Malevitch, là, c'est certain que c'est un art très intellectuel. Carré blanc sur fond blanc, carré noir sur fond blanc, c'est des œuvres très, très, très chargées en signification. Mais lorsqu'on va plus tardivement chez des artistes comme Maurice Lewis ou Kenneth Noland, là, c'est pratiquement le contenu, le message est très difficile à voir s'il y en a un. Là. Donc, ça vient... ça vient être un formalisme tellement important qui vient prendre toute la place. Finalement, il n'y a presque plus d'espace pour une interprétation intellectuelle,
c'est ça,
n'importe quoi.
C'est porteur d'aucune idée, dans le fond. C'est carrément formel. Là. C'est une recherche purement formelle. C'est de trouver la forme parfaite sans aucun discours.
Mais, plus ou moins, oui. Puis même Greenberg disait que son projet était, d'une certaine façon, un peu naïf. Parce que déjà, lorsqu'il y avait des couleurs sur une toile... on avait une idée, là, mettons, le rouge ressort plus que le blanc. Donc, ça donnait pas une idée de bidimensionnalité parfaite.
Okay.
Parce qu'il y avait effectivement... donc, on voit là, la portée du projet de Greenberg, même du rouge sur du blanc, c'était pas assez bidimensionnel pour lui, parce que le rouge ressort plus que le blanc, ce qui donne un aspect de profondeur. Donc, on voit que c'est un projet très, très, très radical qu'il proposait.
C'est effectivement très radical et c'est même très étrange de la part d'un artiste de chercher, en fait, à faire disparaître l'art.
Ben, c'est pour ça que... c'est certain que vers la fin, ça va être très critiqué. Puis c'est ça qui va mener en grande partie ça et d'autres facteurs culturels, par exemple les émeutes de mai 68, tout qui vont mener à un grand changement dans le milieu culturel. Il y a des gens qui vont être un peu tannés de cet art totalement déconnecté, puis qui vont chercher à faire transformer un art qui va plus... Ils vont chercher à reconcevoir l'art de la même façon qu'ils vont reconcevoir la vie. On parle de mai 68, oui. Des mouvements sociaux, etc. Puis l'art va s'inscrire dans ces remises en question. Puis les artistes vont s'organiser en coalition pour pouvoir essayer de re-questionner un peu l'art puis avoir un art un peu plus proche des préoccupations de la société, etc. Donc l'art postmoderne va remettre en question, c'est ça, le retrait des médiums sur leur spécificité propre. Ils vont tellement être tannés de la peinture que pendant 10-20 ans, il n'y aura pratiquement plus aucune production de artistique qui va se mettre dans la peinture. Il va y avoir beaucoup de sculptures, beaucoup de performances, avec l'apparition des performances et tout. Ils vont être tout à fait tannés de la peinture puis des grandes bandes de couleurs de Clement Greenberg. Le retour aux formes, aux enjeux, etc. Vont plus se retourner vers le passé. Les artistes postmodernes vont aller chercher des influences dans le passé contre l'idée d'une espèce de progrès comme Clement Greenberg le prévoyait. Puis aussi,
et à quoi on pense quand on parle au retour dans le passé?
Ben, ils vont, par exemple, en architecture, c'est une des premières zones où l'influence de Clement Greenberg va finir par s'effriter. L'architecture moderne, c'est les grands blocs de béton très hauts, très fonctionnels.
Le bunker ici à Québec sur Grande Allée.
C'est ces grandes tours tout à fait fonctionnelles, mais qui s'inscrivent. En fait, l'idée, c'est qu'on pourrait les mettre n'importe où. Oui. Qui s'inscrivent aucunement dans l'environnement urbain, dans les préoccupations sociales, etc. Un bâtiment froid, dénué d'enracinement social. C'est ça l'idée de l'architecture moderne. Oui. Puis l'architecture postmoderne va venir intégrer des fois des colonnes corinthiennes. Mais tout à fait déformées. Ils vont venir jouer un peu avec ça pour avoir un bâtiment qui va s'inscrire plus dans les préoccupations sociales de l'endroit, plus dans la réalité de l'endroit, puis qui va être propre à l'endroit. Puis ça ne sera pas une espèce de gros bloc de béton qu'on pourrait mettre à Beyrouth comme on pourrait mettre à New York, ce qui est le propre de l'architecture moderne, qui est déconnecté. On se limite sur la forme, on ne se limite pas sur le contenu. Donc c'est l'art postmoderne, c'est d'abord et avant tout une remise en question de l'idée d'un univers esthétique autonome. Autonome du politique puis du social. Puis ils vont chercher, c'est ce qui va faire un peu effriter toute l'idée du modernisme en art, puis qui va faire que finalement mai 68, ça va être plus ou moins la fin du modernisme en art, parce que là, les artistes vont vouloir utiliser l'art pour proposer un message, pour pouvoir s'investir dans la société.
C'est un grand désir de liberté, de se libérer des règles, c'est un désir d'avoir de l'oxygène, d'essayer de sortir du cadre, justement.
Exactement. Puis, si on... D'ailleurs, ce qui est un peu paradoxal, mais il y a un des mouvements très intéressants que j'aime beaucoup de l'art postmoderne, qui est l'art conceptuel, qui va venir pousser un peu à l'absurde le raisonnement de Greenberg de façon radicale. C'est-à-dire qu'ils vont dire si l'art doit se retrancher dans ce qui lui est spécifique, eh bien ce qui lui est spécifique, ce n'est pas l'esthétique. Parce que, par exemple, un coucher de soleil, c'est beau, mais ce n'est pas un objet. C'est un objet esthétique, mais ce n'est pas un objet d'art. Donc, si l'esthétique n'est pas ce qui appartient en propre à l'art, qu'est-ce qui appartient en propre à l'art?
C'est une grande question, ça.
Donc, ils vont dire que c'est l'idée. Puis, ils vont dire que si l'art n'a plus besoin de faire des objets beaux, qu'est-ce que l'art doit faire? L'art doit faire des idées. Donc, il va y avoir des œuvres de l'art conceptuel qui vont venir complètement...
On entre dans le champ de la philosophie, là.
L'art
et la philosophie se rejoignent ici, là.
C'est peut-être pour ça que c'est un courant qui m'intéresse bien, mais ça va venir chercher justement à... On va réfléchir sur c'est quoi le concept d'une œuvre d'art, qu'est-ce qui est esthétique, puis on va venir produire des œuvres comme, par exemple, 5 mots écrits en rouge. Écrit en néon rouge. C'est 5 mots écrits en rouge, en néon rouge, sur un mur. Donc, on vient chercher complètement... c'est la radicalisation du projet de Greenberg, dans le sens que c'est mettre de façon radicale l'idée d'un retranchement spécifique. C'est dire l'art, si doit être, si l'objet d'art n'est pas un objet esthétique, et si l'art, dans son essence, est une idée, alors faisons des idées. Et on n'a plus besoin de faire des objets beaux. On peut même se limiter au texte. Il y a des auteurs comme Baldéréci, qui va se filmer en faisant de grands simagrées avec les bras, en disant « je fais de l'art, je fais de l'art, je fais de l'art ». Donc, c'est un peu ça aussi. C'est si...
Oui, mais alors qui décide que c'est de l'art?
C'est exactement ça. À partir du moment où n'importe quel objet peut être un objet d'art, qui décide c'est de l'art? Selon certains, ça va être l'artiste.
Le banc de neige de Renaud tout à l'heure, c'était...
Selon certains, ça va être l'artiste. L'artiste va dire « ce que je fais, c'est de l'art ». Donc, à partir de ce moment-là, j'ai juste à agiter mes bras dans les airs, me filmer et dire « je fais de l'art ». Ou écrire sur une feuille de papier plusieurs fois « je ne ferai plus d'art ennuyant »,« I will not make any more boring art », qui est une œuvre tout à fait célèbre aujourd'hui. Ou sinon, venir vraiment... sinon...
Mais comme disait Luc Ferry, est-ce que ça ne... Est-ce qu'on ne parle pas justement de la mort de l'art à ce moment-là? Si tout est d'art, rien n'est art.
Mais c'est un questionnement qui va être poussé à l'extrême et à l'absurde. C'est un questionnement même un peu rigolo. Ces artistes-là vont un peu se moquer des gens. Puis on va aussi se moquer de l'institution muséale. Parce qu'à partir du moment où n'importe quoi peut être de l'art, c'est le musée qui décide qu'est-ce qui est de l'art et qu'est-ce qui n'en est pas. Donc certains qui sont rendus là, les artistes vont vouloir se moquer un peu des musées, vont vouloir se moquer aussi un peu d'un art tout à fait limité à l'idée et tout, vont pousser un raisonnement tellement à l'extrême, mais qui va être très influent. Parce qu'après l'art conceptuel, aucun artiste va pouvoir s'empêcher de se questionner à savoir qu'est-ce qui fait que ma production est de l'art, qu'est-ce qui fait que je décide si c'est de l'art, est-ce que c'est mes collègues qui doivent se pencher là-dessus, savoir si c'est de l'art. On n'a plus de critères nécessairement objectifs pour dire « Ah bon, ben vous avez une grille de critères, votre objet est fait par quelqu'un qui gagne son salaire comme artiste, il compose de telles couleurs, donc nous pouvons cocher, c'est de l'art, effectivement, c'est bon ». Il n'y a pas de grille pour dire qu'est-ce qui est une œuvre d'art.
Tout à fait.
À partir du moment où l'art est limité, et illimité en fait, qu'est-ce qui peut dire qu'est-ce qui est de l'art? Est-ce que l'art peut être le simple acte, l'action du quotidien simplement?
C'est une bonne question. Je pense que on va terminer là-dessus, Dominique. C'est tout le temps qu'on avait. Je pense que je vais reposer la question à mon prochain invité. Qu'est-ce qu'est l'art? Est-ce que le quotidien peut devenir de l'art? Est-ce que l'art est partout ou est-ce que l'art est nulle part? Alors, pour parler justement du modernisme et de l'art contemporain, merci Dominique.
De rien.
Il faudra d'ailleurs qu'on éclaircisse la différence entre l'art contemporain et le postmodernisme. Moi, j'avoue que j'ai tendance à mélanger ça. L'homme qui a vu l'homme, on a choisi ensemble une pièce musicale composée en 1974, une pièce qui est aussi éclatée en musique qu'en paroles et qui est porteuse de cet esprit propre à l'art contemporain là, dans son désir de briser les règles. Tu nous la présentes?
Eh oui, alors c'est l'incroyable Frank Zappa, très intéressant. Alors, le titre de la pièce, c'est ce que je dis à mon chien tous les jours quand je le sors, parce que, vous savez, les chiens, hein, qu'est-ce que ça fait en sortant? Ça va sniffer la neige, puis le pipi des autres chiens. Alors, je dis à mon chien, ne mange pas la neige jaune, don't eat the yellow snow.
Dreamed I was an Eskimo. And wind began to blow. And my mama cried. And my mama cried. Watch out where the huskies go, don't you eat that yellow snow. Watch out where the huskies go, don't you eat that yellow snow.
Well, right about that time, people, a fur trapper who was strictly from commercial had the unmitigated audacity to jump up from behind my igloo. And he started in the whipping on my favorite baby seal.
with a lead-filled snowshoe. That got me just about as evil as an Eskimo boy can be. So I bent down and I reached down and I scooped down and I gathered up a generous mitten full of the dead lead.
Yellow snow.
The deadly yellow snow from right there where the huskies go. Whereupon I proceeded to take that mitten full of the deadly yellow snow crystals and rub it all into his beady little eyes with a vigorous circular motion hitherto unknown to the people in this area, but destined to take the place of the mud shark in your mythology. Here it goes now, the circular motion, rub it! And then in a fit of anger, I pounced, and I pounced again. Great googly moogly. Well, he was very upset, as you can understand. And rightly so, because the deadly yellow snow crystals had deprived him of his sight. And he stood up, and he looked around, and he said, stuffed it in my right eye. He took a dog do snow cone and stuffed it in my other eye. And the husky wee wee, I mean the doggy wee wee, has blinded me. And I can't see temporarily.
Alors, nous allons maintenant accueillir notre troisième invité qui va nous parler du postmodernisme et de l'art contemporain. Oscar Moya enseigne la philosophie au Cégep Garneau. Il donne en ce moment un cours qui s'intitule « Enjeux philosophiques contemporains ». Il a accepté de venir nous parler de postmodernité en art. Bonjour, Oscar.
Bonjour.
Alors, on a parlé tout à l'heure d'académisme avec Xavier. Dominique nous a expliqué les idées qui sous-tendent la modernité en art. Est-ce que le postmodernisme s'inscrit dans une continuité historique ou est-ce que c'est une rupture radicale avec les mouvements qui ont eu lieu avant? Est-ce qu'on est dans des ruptures?
Les deux, je dirais. Je pense que la plupart des auteurs s'entendent pour voir une continuité, mais en même temps une rupture. Mais je vais tenter d'expliquer ça en référant en fait à un auteur qui est quand même... disons, abordable dans la lecture, Luc Ferry, qui tente d'expliquer la postmodernité. Okay? Il s'en remet à Nietzsche, qui insiste sur le fait qu'il y a une nouvelle rupture historique qu'on pourrait appeler postmodernité. Alors, ce n'est pas Nietzsche qui pense ça.
Parce qu'on est bien avant la postmodernité quand on parle de Nietzsche.
C'est plutôt Ferry.
Oui. Il voit Nietzsche comme étant le précurseur de la postmodernité.
Peut-être, on pourrait pas dire le précurseur parce que le philosophe vient toujours, comme disait Hegel, comme la chouette de Minerve. Il arrive tard quand les choses ont déjà eu lieu.
D'accord.
Il est celui, en fait, qui ramasse ce qui est à l'état de bruissement à son époque. Et il appelle ça, en fait, la mort de Dieu. Dans le fond, c'est la mort des idoles. La mort de tout ce que la philosophie, de tout ce que la culture occidentale avait érigé en idole ou en idéal, si on veut. Oui. C'est la mort des idéaux. Pour Ferry, c'est exactement ce qui traduit l'esprit de la postmodernité.
D'accord.
Un autre auteur français, Jean-François Lyotard, va appeler la fin des grands récits. C'est à peu près une idée similaire. Donc, au fond, l'idée de Ferry, c'est que Nietzsche aurait déjà vu à son époque que une nouvelle rupture commençait, mais une rupture qui s'inscrit dans la critique moderne. Ben, pour expliquer ça, je vais tenter de parler des trois époques, en fait, ou des trois ruptures.
Il y a eu trois ruptures.
Ben, c'est-à-dire, ce ne sont pas des ruptures techniquement historiques, mm-hmm. mais ce sont des ruptures que peut voir un philosophe. C'est-à-dire, on ne suit pas toujours, disons, strictement les périodes historiques que peut voir un historien. Mm-hmm. Mais bon, ces trois ruptures, pour lui, sont le monde ancien, celui de l'Antiquité. Mm-hmm. Dans le monde ancien, les hommes vivaient, si on veut, par le fait qu'ils croyaient vivaient dans un monde dans lequel ils s'inscrivaient dans un ordre supérieur, un ordre transcendant. Par exemple, le grec, il est convaincu en fait qu'il nage dans le cosmos, mm-hmm. qu'il nage dans un ordre préétabli. Et que tout ce qu'il a à faire, en fait, c'est de trouver, disons, une place, une toute petite place dans cet ordre cosmique qu'on peut comparer à une horloge, si on veut. Les Grecs sont convaincus de ça.
Ils vivent dans un monde ordonné.
Tous les Grecs vont tenter, et même jusqu'aux Romains, et on pourrait même dire, en fait, dans la même lignée, mais d'une autre façon, en fait, même le Moyen-Âge va faire la même chose. C'est-à-dire, on croit à des transcendances, on croit qu'il y a un ordre qu'il faut suivre, et l'homme doit se confiner à cet ordre-là.
Oui.
Okay. Ce que propose la modernité, et puis ça arrive avec Descartes, même avant Descartes, en fait, avec la venue de la science, avec Galilée, on voit. Descartes, c'est lui, en fait, qui va, comme Nietzsche, disons, rassembler ces concepts. Ce que va faire la modernité, c'est rompre avec cette conception. Et évidemment, de rompre de manière radicale. Avec Descartes, le monde n'est pas prédonné. Nous n'arrivons pas au monde, dans un monde préexistant. Mm-hmm. Descartes, ce qu'il a fait par son doute radical, c'est qu'il a douté du monde. Et en doutant du monde, il s'est dit, ben, écoute, le monde dépend de moi. C'est moi qui définis par mes jugements le monde. Alors évidemment, il y a un renversement complet.
Oui. Hein? C'est le début de la subjectivité.
C'est le début de cette subjectivité radicale. Oui. Et c'est ce qui pourrait, en fait, en un sens, résumer synthétiquement l'esprit de la modernité.
Cette rupture-là. La rupture entre la conception antique du monde préordonné dans lequel l'homme entrait et ce nouveau monde où l'homme est le sujet central.
Et le sujet central, tout à fait.
Oui.
C'est l'homme, en fait, qui, au fond...
Qui donne sens au monde.
Qui donne sens au monde. Cependant, et voici qu'il faut... C'est ça qu'il faut comprendre. C'est dans la modernité, on n'a pas évacué complètement l'idée d'ordre.
Oui.
Cet ordre transcendant, en fait, est devenu une sorte d'ordre immanent. C'est l'ordre de la raison, par exemple.
D'accord.
Hein? C'est l'ordre de la raison, surtout au XVIIe siècle. Hein? Une raison qui ordonne les choses... ça se poursuit au XVIIIe siècle avec Kant, hein, mm-hmm. l'ordre de l'entendement, les catégories de l'entendement. Ces gens-là pensent en fait qu'il y a des structures en l'homme qui ne peuvent, ce sont ces structures en fait qui déterminent une certaine définition de l'homme, une définition de ce qui est à faire, une définition de l'éthique, une définition de la morale. Alors évidemment, les hommes modernes n'ont pas tout. Foutu à la poubelle.
Oui.
Ils ont créé quelque chose, une sorte d'ordre.
Sur le même modèle que la conception antique, mais au lieu d'être centré sur un monde
transcendant. Extérieur.
Oui.
Donc maintenant, c'est un monde en fait, qui est ramené à la rationalité. Oui.
Mais il y a des règles.
Oui, il y a des règles.
Il y a des
effectivement.
Règles.
C'est... Kant, d'ailleurs, en fait, dans sa troisième critique, il essaie de chercher les règles du goût.
Hein. Oui.
Il essaie de chercher... Les hommes, en fait, au XVIIIe siècle, ils sont convaincus, en fait, qu'il y a quelque chose dans la nature humaine qui nous porte à aimer quelque chose de beau et qui est universel, qui ne varie pas nécessairement.
Puis en même temps, c'est un peu toute la base de la méthode scientifique qui est que par une méthode, on va arriver à découvrir l'ordre, les règles.
Tout à fait.
On cherche à découvrir les règles par une méthode.
Tout à fait, tout à fait.
Alors, et l'art a fait la même chose.
Ben, absolument. En art, en fait, durant tout le XVIIe siècle, on va perfectionner l'académisme, les règles en fait, du goût. On va d'une certaine façon essayer de confiner ce qui est beau dans des règles. Et puis évidemment, il y aura des petites variations, mais pas tant que ça en fait. Mm-hmm. Hein? L'artiste va être, disons, jugé par sa capacité à rendre la beauté, à rendre cette beauté subjective que l'on découvre quand on, quand on voit une œuvre, à, disons, émouvoir ses semblables.
Oui.
Donc, il s'adresse en fait à quelque chose de prédéfini.
Oui.
Mais voilà ce qui va voler
à l'éclat. Qui est l'idée de la beauté et qui
tout
serait commune à tout le monde.
Ouais. Ouais. Alors, évidemment, tout est... Il y en a qui pensent que la postmodernité existe, il y en a qui pensent qu'elle n'existe pas.
Ah bon?
Ce qui va arriver...
Non, là, on apprend quelque chose.
C'est ça. Ben, en fait, ce qui va arriver pour Ferry, c'est qu'effectivement, cet esprit critique, cet esprit de mise en question, cet esprit de rejet des règles, cet esprit de rationalité critique va finir par se mordre lui-même, va finir par se détruire. Et évidemment, en détruisant les aspects les plus, les aspects les plus fonciers de la modernité, qui sont par exemple les idées humanistes.
Oui.
L'idée de liberté, égalité, tout ça, en fait. L'idée qu'il y a un homme transcendantal, c'est-à-dire qu'il y a un homme universel qui est le même pour tous.
Oui.
Vous voyez, quand on se bat pour les droits de l'homme,
oui,
on est moderne.
Tout
on
à
croit,
fait.
On croit,
c'est une
en
idée
fait,
moderne.
On croit, en fait, qu'on se bat pour un principe qui est transcendantal, mais qui n'est pas nécessairement celui de l'occidental moderne, mais qui est celui de tout être humain.
Oui. Hein? Dès qu'on a une conception humaniste, on est dans la modernité.
On est dans la modernité, effectivement. Quand oui, on se bat, en fait, pour des droits universels, pour oui, des questions d'égalité, c'est parce qu'on estime qu'il y a un homme universel
oui,
qui ne varie pas nécessairement dans la culture. Évidemment, il y a des choses qui varient, mais il y a des choses qui ne varient pas. Et justement, le moderne se fonde sur ce qui ne varie pas.
Mm-hmm.
Alors, la postmodernité, celle de Nietzsche,
oui,
justement,
pour revenir
une
à Nietzsche,
critique de ça. Nietzsche, ce qu'il fait, c'est casser les idoles. Hein. Casser les idoles, c'est-à-dire détruire les dernières bastions, justement, de ce qu'il va appeler, une idolâtrie, n'est-ce pas? Et pour Nietzsche, on a troqué la religion par, disons, ces nouveaux idoles, la liberté, l'égalité, tout ça, en fait. Ce sont des idoles, mm-hmm, ce sont des productions humaines.
Oui.
Hein? Et donc, il ne reste, en fait, qu'à les évacuer également, qu'à les casser, arrêter d'aller à l'autel des idéologies, aller à l'autel, en fait, des idéaux. Et puis, évidemment, à partir de là, qu'est-ce qui reste? Ben, c'est un monde, selon Ferry, c'est un monde chaotique.
Oui.
Mais c'est, pour Nietzsche, ce qui est intéressant, c'est que c'est positif. Parce que, justement, c'est ce monde-là qui reste et c'est la réalité pour lui. Évidemment, il s'en prenait aussi à Platon. Il disait Platon, c'était celui qui avait l'obsession de l'unité, qui voulait tout rassembler en un tout harmonieux. Bah, évidemment, Nietzsche, il dit non. Il dit, c'est une question de discours. Chacun voit les choses selon une perspective différente. Parce que chacun interprète les choses différemment. Donc, avec Nietzsche, on est dans le perspectivisme.
Et comment ce perspectivisme de chacun des idées s'est exprimé dans l'art? Comment l'art a vécu cette rupture, en fait? Parce que c'est une rupture d'abord philosophique. Et on parle d'une rupture philosophique et les artistes ont traduit cette rupture.
Tout à fait. Ben, pour lui, en fait, c'est cet esprit de désordre qui se pointe, par exemple, dans les œuvres de Picasso, par exemple. Hein.
Déjà.
C'est ça. On a, par exemple, moi, je montre ça à mes étudiants, mais Guernica, hein, sujet,
oui,
par exemple, en 1937, donc le bombardement de la Weimar sur une ville insignifiante, hein, qui n'est pas un objectif ni militaire, ni industriel, juste par la force. Hein, les nazis disaient, écoutez, on est décidé, on est capable d'écraser... des choses, un village insignifiant, le réduire à néant. Alors, Picasso aurait déjà vu ça, en fait.
D'accord.
On est au-delà de l'humanisme. Cette barbarie nouvelle, elle n'est pas, elle n'est pas moderne. Hein. Nous sommes redevenus des barbares. Et donc, ces tableaux expriment ces contradictions. Ce que Nietzsche appelait ça, en fait, un monde contradictoire, de forces infinies qui s'opposent, qui luttent. Le moderne n'aime pas la lutte, il veut la réconciliation,
oui, il veut l'unité,
il veut l'harmonie, il veut tout,
l'universalité,
tout
c'est oui, tout à fait. C'est que tout le monde s'entende sur une définition claire de ce qui
tout le monde est en paix,
le bien de ce qui est. Oui, tout à fait.
Alors le postmoderne, il s'accommode bien de la guerre, de l'opposition.
Des conflits, peut-être pas de la guerre, mais des conflits en tout cas.
Ouais, des conflits. Puis, parce qu'il estime en fait qu'on peut tout dire et qu'on peut tout inventer. Hein, que les forces, les instincts émanant de la vie.
Alors, le postmodernisme, c'est le relativisme, en fait.
Ce n'est pas un relativisme au sens, disons, classique du terme.
Non. Hein.
Le perspectivisme n'est pas nécessairement un relativisme.
Quelle est la nuance?
Dans la mesure, c'est-à-dire, si on parle de Nietzsche, il essaie de... Il y a une visée de vérité quand même quand il dit tout ça.
Ah d'accord.
Quand il parle de la réalité là, il dit la réalité elle est multiple.
Oui.
Il parle d'une vérité là. Il n'est pas en train de relativiser ça.
Okay.
Il se place sur un autre sol seulement. Donc on n'est pas dans le relativisme. On est dans ce que Nietzsche va appeler un perspectivisme issu de la vie. Les hommes vont se mettre en fait à faire des créations qui vont être contradictoires, qui ne seront pas nécessairement harmonieuses, mais en fait qui traduiront justement cette infinie possibilité de création de l'homme.
Oui, donc il faut bien comprendre que la multiplicité des points de vue, c'est très différent de la relativité des points de vue.
Tout à fait, oui. Absolument. Et justement, en fait, je pense que la postmodernité, c'est d'abord... Il faut la voir comme un pluralisme.
Oui.
Et ça traduit bien l'esprit d'aujourd'hui. Hein?
Oui, tout à fait. Tout à fait. Où on doit apprendre à respecter un petit peu d'eau. Oui, un petit peu à respecter les autres cultures, à ne pas prétendre que notre... Mais ça cause un problème, justement, sur la définition esthétique de l'art. Parce qu'on a toujours défini l'art en fonction des critères esthétiques.
Ouais.
Même avec le modernisme, ce que Dominique nous expliquait tout à l'heure avec la recherche formaliste qui a fini dans des lignes, il y avait quand même une recherche esthétique. Mais quand on regarde l'art contemporain, on a souvent l'impression qu'il n'y a pas de recherche esthétique.
Non.
Est-ce qu'on peut encore parler d'art s'il n'y a pas de recherche esthétique?
C'est-à-dire, je pense que ce que l'artiste postmoderne comprend, c'est qu'il doit lui-même définir les méthodes, l'ordre. Au fond, il n'y aura pas un ordre, il va y avoir une multiplicité d'ordres différents. Une multiplicité, en fait, de langages, de discours, de structures, qui seront toutes différentes et qui vont s'affronter. Alors, qu'est-ce qui en restera de ça? Je ne sais pas, mais...
Oui.
Ouais, donc,
mais ça va jusqu'où?
Par exemple, je te donne un exemple,
oui.
Catherine. Par exemple, l'intérêt que suscite l'art venant d'ailleurs.
Oui.
Et
oui.
Tout à fait dans cette lignée.
Oui, l'art autochtone, l'art chinois, l'encre de Chine, l'art indigène est très, très... effectivement, est très recherché aujourd'hui.
Tout à fait. En fait, on voit là, et puis c'est comme ça, en fait, c'est la preuve qu'on est postmoderne. C'est-à-dire, on n'essaie pas d'imposer nos critères de beauté, nos critères... Non, on est à l'écoute, en fait, d'un autre ordre, d'un autre discours, d'une autre façon de concevoir les choses, d'une autre perspective
la réalité. Mais à ce moment-là, les critères esthétiques se définissent en fonction d'une culture propre. Quand on parle d'art autochtone, d'art indigène, il reste que dans ces cultures-là, il y a des critères esthétiques.
Oui, tout à fait. C'est ce que je disais tantôt.
Oui.
C'est-à-dire, les critères seront définis par des sociétés, par des cultures, par des individus. Ce que l'art postmoderne prône, au fond, c'est inventons des méthodes, inventons des règles qui seront certainement différentes de l'autre, mais qui vont être intéressantes justement par leur diversité, par leur structure différente, par leur définition différente.
Donc, si j'entends bien ce que tu me dis, Oscar, c'est que dans l'art, dans le mouvement d'art postmoderne, il y a toujours et encore une recherche esthétique.
Oh, oui, bien sûr. Bien sûr, mais elle est cette fois-ci non pas uniformisée, elle est pluraliste. Au fond, l'art postmoderne, je pense en fait qu'on pourrait dire que ça pourrait être toute chose. n'importe quoi. En fait, à partir du moment où tu es capable de diriger un langage, disons une façon de concevoir les choses, c'est un peu le anything goes, hein. Tout est possible.
Oui.
Hein. Mais je te fais remarquer autre chose, en fait. Hein. Y a aussi, dans l'art postmoderne, une coupure avec la linéarité moderne. Je me souviens, en fait, parce que moi aussi, je fais un petit peu de peinture.
Oui,
tout ça,
ah
dans
oui,
les
oui
années,
ah, c'est bien.
Ouais, dans les années 80, je me souviens, en fait, qu'il était presque interdit de s'intéresser à l'art ancien. Hein? Dans les années 70-80, je dirais, parce que les artistes avaient l'impression, étaient encore trop influencés par les avant-gardes. C'est pas...
oui.
Revenir en arrière...
Oui, ça, c'est l'art contemporain. Là, ouais. Où il faut que ça soit toujours dans le nouveau, du nouveau,
oui,
du nouveau.
Tout à fait. Il oui. faut qu'on s'inscrive dans cet horizon linéaire de la temporalité moderne.
Oui.
Mais... effectivement.
Donc, il y avait des sujets qui étaient interdits parce que ce n'était pas nouveau.
Oui, c'est
c'était
ça.
C'était ancien,
ouais.
On ne pouvait pas le faire.
Mais maintenant, en fait, qu'on a déconstruit même le temps moderne, bah, on peut maintenant s'intéresser à des arts anciens et on peut aller les investiguer. Puis, il n'y a pas, en fait, il y a pas un artiste qui va, comment on dit, censurer cet art-là comme étant périmé, je ne sais pas, moi... conservateur.
Est-ce que le retour des académies dont nous parlait Xavier en début de soirée
absolument.
Peut s'inscrire c'est un phénomène postmoderne.
Oui, oui. D'ailleurs, oui, bien sûr. Il y a des artistes qui s'inscrivent dans une tradition. En fait, il y a des artistes. On s'inspire beaucoup du 17e siècle depuis un certain temps. Je regardais par exemple un artiste sur Internet, Eric Tiemens. Il étudie beaucoup en fait l'art du paysage au XVIIe siècle. Puis il essaie en fait comme un homme du XVIIe siècle, il s'inscrit dans cette lignée-là. Enfin, du coup, on n'a plus de linéarité. C'est comme si là, le temps était devenu une sorte d'arbre avec des branches.
Oui.
Et chaque branche en fait pourrait s'étendre si on veut très très loin. Hein. Donc
tout à fait.
Alors.
Donc c'est des gens qui font de l'art préhistorique, c'est postmoderne.
Oui. On pourrait. Je ne sais pas si quelqu'un
mais ça pourrait.
Oui.
Ce qui est intéressant, en tout cas, ce que je comprends tout à coup, c'est qu'il y a un certain mélange conceptuel entre art contemporain et postmodernité. Ce n'est pas du tout la même chose. Quand on parle de l'art contemporain,
ouais.
On parle d'un mouvement qui s'inscrit dans l'avant-garde.
Tout à fait. Ça dépend.
Pas toujours.
Ça dépend. En fait, là, je suis en train de parler d'une coupure qui est plus philosophique que... Je veux dire,
oui.
Il y a, dépendamment, en fait, donc, de l'auteur, on va avoir chez un auteur un postmoderne, un moderne. C'est pas tout à fait harmonieux, ces discours-là.
Oui, oui.
Je parlais de Luc Ferry, d'une vision plus philosophique sur la postmodernité qui donne en même temps une certaine définition de la postmodernité.
On a de la musique qui vient de se joindre à nous pour nous indiquer qu'il nous reste deux minutes.
Okay.
Est-ce qu'on peut faire une brève conclusion?
Alors, tu m'avais posé la question au début, c'était est-ce que c'est positif? Est-ce qu'il y a une crise de l'art?
Oui.
Moi, je dirais que c'est positif. D'une part, en fait, comme Nietzsche disait, un retour à la réalité qui est multiple, pluraliste. Donc, absence de règles veut dire ouverture aussi à d'autres possibilités.
Oui.
Il y a cela, en fait. Puis en plus, toutes les capacités de création que ça peut produire, en fait, hein, inédites. Alors non, je pense que c'est intéressant.
Donc le postmodernisme, c'est une nouvelle ère qui s'ouvre à tous les gens qui ont envie de créer, parce que ça s'inscrit d'abord sur la créativité.
Ouais.
On se demandait, quand on parle-t-on d'art, c'est quand on parle de création?
Quand on parle de création, évidemment, oui.
Merci beaucoup, Oscar. On va terminer là-dessus. En tout cas, moi, j'ai appris beaucoup. J'espère que ça a été la même chose pour les auditeurs. Donc, je remercie Gab Paquette pour la composition du thème de l'émission. David, notre libraire et hôte. Merci à mes invités, Renaud Pilote, Xavier Bélanger-Dorval, Étienne n'était pas là ce soir, il nous a fait faux bon, Dominique Morin et Oscar Moya. Merci à mon collaborateur, l'homme qui a vu l'homme, pour la mise en onde et le choix des pièces musicales. Et merci à Big Nick, qui nous héberge et nous diffuse sur son site Radio Fiat Lux, où vous pouvez retrouver toutes les émissions de La Voix de la librairie en podcast. Le mois prochain, ce sera une émission toute féminine, puisque mes invités seront des femmes qui me parleront des femmes. C'était La Voix de la librairie à Québec.